France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Bonjour, je suis Joseph Van Damme, mieux connu sous le nom de José Van Damme. Je suis né à Bruxelles au mois d'août 1940 et je suppose que vous me connaîtrez un peu mieux au bout de cette discussion.
Bonjour José Van Damme.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accorder ce temps ici à la chapelle Reine Elisabeth, oui. À côté de Bruxelles, oui. Au milieu des grands arbres verts, oui. Tout près de Bruxelles.
C'est la forêt, le bois de la Cambre, qui est le poumon, on appelle le poumon de Bruxelles, qui est assez grand. Et c'est à, je pense, 12-13 kilomètres du centre de Bruxelles.
Et ici, José Van Damme, vous enseignez depuis maintenant plusieurs années, entouré d'une belle équipe de professeurs.
Oui, tout à fait. Ça doit faire 10 ans que nous avons commencé. La chapelle existait depuis plus longtemps. Elle a été créée en fait par la reine Elisabeth, qui voulait que des jeunes artistes belges sortis du conservatoire puissent encore s'améliorer avec le professeur qui choisissait. On se perfectionne pour le piano, pour le violon, pour le violoncelle, pour le quatuor et le chant.
On vous entendait dire Joseph Van Damme.
Oui, avec des comme Jean-Claude.
Ceux qui vous appellent Joseph, oui. Ce sont vos parents. Vous naissez, on l'entendait, en 1940.
Oui.
C'est Bruxelles juste occupée.
Oui, je suis venu pour chasser les Allemands. Ça a duré 5 ans, mais on est réussi finalement. Et à Bruxelles, Joseph, c'est Jeffke. Jeffke et mon professeur de chant, Frédéric Ranspach, qui m'a connu quand j'avais 13-14 ans et qui était mon unique professeur de chant, il m'appelait Jeff.
Alors, de quoi vous vous souvenez de cette petite enfance, avant 11 ans, 10 ans, ces premières années, toutes premières années, oui. Est-ce que vous vous souvenez, vous
Mais je me souviens de certains moments, pendant la guerre encore, j'étais dans une crèche pour enfants, en plein centre de Bruxelles, et on venait me chercher, ma mère, et je me souviens du trajet en tram, avec parfois des officiers allemands qui étaient là, et je me souviens d'une bombe qui était tombée près de chez nous, mais qui n'avait pas explosé. Et je me souviens très bien, j'ai toujours cette image de cette bombe qui est sur le rebord du trottoir. Elle avait éclaté, et il y avait un liquide jaunâtre, comme ça, qui sortait de cette bombe. Juste en face de chez moi, il y a un monsieur qui collaborait avec les Allemands qui a été mitraillé. Et on a vu longtemps les traces de balles dans le mur. Puis je crois que c'était quand j'avais 4 ou 5 ans, il y a eu un hiver terrible. Il avait fort neigé et on a joué pendant des jours et des jours à la rue. Et quand les Américains sont rentrés à Bruxelles, la seule cigarette que j'ai fumée, c'est celle quand j'avais 4 ans. C'était la liesse, tout le monde fêtait, ils nous avaient donné du chocolat, ils nous avaient donné des cigarettes. Enfin, et maman m'a cherché pendant la fête, entre voisins, et j'étais caché derrière un fauteuil, paraît-il, et je fumais une cigarette américaine.
De Lisette a fleuri ce matin au premier rayon du soleil. C'est que le printemps, hier encore incertain, a sonné partout le réveil. L'hirondelle nous rappelle que les lilas de nouveau sont là. La nature nous murmure qu'on peut oser de nouveaux baisers.
Vous avez le souvenir, dans cette petite enfance-là, qu'on manquait de nourriture ?
Oui, je me souviens que, je ne sais pas très bien Mon père avait été prisonnier de guerre. Il est rentré en Belgique en échange de... Il travaillait dans une ferme en Allemagne pendant un an. Et puis il est rentré en Belgique et j'avais déjà 7 mois. Donc il m'a connu que quand j'avais 7 mois. Et le début était... Je sais que mes parents avaient une petite épicerie et qu'il fallait aller au marché, mais qui était à, je dirais, 5-6 kilomètres de Gette, qui est un faubourg de Bruxelles où nous habitions. Et mon père allait faire le marché le matin avec une charrette qui poussait. Donc, ce n'était pas facile. Je me souviens qu'après, ils avaient reçu des bons pour des chaussures, pour moi. Parce que quand je jouais au football, il fallait souvent d'autres chaussures. Et je me souviens, donc mon père était ensuite, il a repris son métier, il était ébéniste menuisier. Il avait, à un certain moment, il avait ouvert sa petite affaire. Il faisait des lits d'enfants. Et je me souviens, il disait, c'est le lit breton. C'est un lit avec, comme des barreaux, si vous voulez, en bois. Et ça marchait bien. Et puis, il avait fabriqué un meuble où, un à côté de l'autre, il y avait la radio et un tourne-disque. Qui, je me souviens, c'était un Torrens. C'était une marque suisse. Et de ce dépôt des 78 tours. Et maman et ma sœur, qui avaient 5 ans de plus que moi, avaient acheté des disques. Et on écoutait Tino Rossi, on écoutait Nat King Cole, on écoutait... Lucien Delisle, par exemple, enfin, et d'autres. Et ça a été le déclenchement, si vous voulez, de ma vocation et de ma profession. Et donc, on écoutait les disques et je chantais avec eux. Et c'est comme ça qu'un ami de mes parents, lui, chantait dans un chœur d'hommes, dans l'église de la paroisse où nous habitions. Il m'a entendu chanter. Et il a dit à mes parents, mais Jeff, il a une belle voix. Hein. Et puis, il m'a conduit... Chez le prêtre, c'était dans une église, l'église de la Madeleine. Et puis j'ai commencé à chanter en solo avec le chœur d'hommes qui m'accompagnait. Et ça, ça a été le début, disons, de ma profession. J'ai commencé à chanter très tôt, hein. J'avais 11 ans quand j'ai commencé à chanter. Et à 14 ans, quand j'avais 14 ans, je disais à tout le monde, je vais devenir chanteur d'opéra. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, heureusement. Et puis voilà. Et puis j'ai eu ce moment à 13 ans où je muais. Donc la voix, elle était très libre. Elle partait, elle revenait, elle partait, elle revenait. Et c'est là que mon professeur de piano... qui était Madame Erat, qui est morte il n'y a pas longtemps, à 96 ans. Elle m'a dit, tu devrais aller voir un professeur de chant. Et je suis donc allé chez Frédéric Ranspach, et c'était mon unique professeur de chant.
Et comment est-ce que vous avez commencé le piano, José Van Damme? Quelle était l'idée de commencer le piano? Vous commencez...
Mais parce que je chantais avec ce chœur, et je chantais parfois à des fêtes enfantines, pour la fête des mères, à la Noël, je chantais avec ce chœur, j'avais chanté. Et quelques personnes avaient dit à mes parents, il faudrait peut-être qu'il apprenne un peu la musique et aussi la diction, parce que je parle, comme on parle à Bruxelles, ça va être terrible. Hein, ça... Et puis voilà, j'ai donc commencé avec le piano.
Et vous aimiez ça?
C'était là où je commençais à aimer surtout les filles. Disons que ça passait avant le piano, mais je l'ai fait 4 ans, et Madame Erat, Annie Erat, elle était très, très patiente et très gentille. Mais j'allais à la leçon, et puis une ou deux heures avant de retourner, je travaillais un peu le piano, et puis le restant du temps, c'était le football ou les filles, et naturellement le lycée. Hein, faut pas... Et voilà. Ça m'a permis quand même de travailler une partition tout seul. Et même des partitions, je me souviens, quand j'ai commencé une des plus difficiles, c'était Wozzeck, d'Alban Berg, je l'ai étudié un peu seul. Et puis, naturellement, quand je suis allé pour le chanter à l'opéra, il y avait des pianistes à l'opéra et le chef qui me donnait des conseils, etc. Mais ça m'a été d'une grande aide parce que j'ai eu des collègues qui n'étaient pas capables d'apprendre un rôle seul et qui devaient aller voir des chefs de chant et ça coûtait de l'argent. Hein.
Est-ce que votre mère travaillait ?
Ma mère avait un petit salon de coiffure. Elle avait ses habitués. Elle devait être bonne parce que tous les habitués revenaient. Mais c'était dans la maison où nous habitions. Et ma sœur, qui a 5 ans de plus que moi, elle a commencé à travailler aussi à 18 ans ou je ne sais pas. Alors que j'en avais 13, quand moi j'ai commencé à chanter, disons.
Oui. Et tout a commencé, je crois, José Van Damme, avec un radio-crochet.
C'était crochet.
Crochet
tout court. Et c'était ce qu'on appelle une fête de quartier. Il faisait bon. Et on était assis à la terrasse d'un café. Et dans ce café, il y avait un crochet. Donc il y avait un orchestre. Je me souviens du nom. C'était l'orchestre Luc Marcy. Un orchestre de jazz de 5-6 musiciens. Et les gens s'étaient inscrits. Et puis ils ont commencé à chanter. Et puis. Je disais à ma mère, bah, chanter comme eux, je peux faire aussi. Alors mon père disait, laisse-moi boire ma bière tranquille. Mais quand même, ma mère a dû. Alors elle est allée au comité du concours. Ils ont dit non, les inscriptions, c'est fini. Mais elle dit, c'est pour mon fils, il a 11 ans. Ah, c'est un gamin, allez, on va le prendre. C'était très chouette. Hein. J'avais chanté une chanson, en fait, que j'ai chanté souvent sans savoir ce que c'était. Ça s'appelait « Maman si jolie » et je l'avais entendu sur un disque. « Maman si jolie » Et en fait, ce que j'ai appris longtemps après par des amis juifs qui m'ont dit « Mais tu sais, c'est « Oh my yiddish mama » C'est un chant juif de « Oh my yiddish mama » enfin, et c'est avec ça que j'ai gagné le concours. Et Luc Marcy, il m'avait accompagné comme ça, sans répétition, sans rien. Et ça avait très bien marché. C'était de bons musiciens.
Vous étiez donc face à vos parents et à tout le monde.
Oui, oui, il y avait quoi, 250 personnes là, sur la terrasse. Et j'ai gagné une nappe de cuisine et je crois un vase. J'étais très fier.
Maman si jolie, oh toi ma petite maman. Tu n'as dans la vie que le bonheur de ton enfant. Toi qui savais si bien d'amour d'un petit rien me donner de l'espoir quand j'étais triste certains soirs. Maman si jolie.
Les grands entretiens de José Van Damme, France Musique.
Et c'est comme ça que Luc Marcy a dit, écoutez, ce garçon, il a un talent parce qu'on n'a pas répété, et puis c'était en rythme, c'était tout. Puis voilà, le début.
Le début de tout. Mais vous, oui, qui dites toujours, José Van Damme, que vous étiez très timide, il faut quand même avoir un sacré caractère pour se dire, allez hop, je vais sur scène.
Non, ça c'est une chose qui m'a toujours, et qui m'intrigue d'ailleurs toujours, c'est que quand je suis en scène, je n'avais pas le trac. Enfin, le trac, oui, je l'avais, mais ma timidité s'en allait parce que j'étais dans mon ambiance, dans mon monde, disons, et ça ne me faisait absolument rien. Mais si on me demandait de chanter à la maison, j'ouvrais une porte, je me cachais derrière la porte et je chantais derrière la porte, que les gens ne me voyaient pas. Mais une fois sur scène, et ça a toujours été comme ça, j'ai toujours été d'un naturel plutôt timide. Mais quand j'étais Après, quand j'étais dans la peau d'un personnage, Mephisto, Boris, ce que vous voulez, ce n'était plus moi. C'était quelqu'un d'autre et donc ma timidité s'en allait.
Quand même, José Van Damme, qu'on évoque toute cette formation. Parce que vous avez évoqué votre professeur, Frédéric Anspach. Mm-hmm. Il y a eu, avant, cette Madame Hera, donc professeur de piano, oui. dont vous avez dit que c'était votre ange gardien.
Parce que oui, je crois c'était que ma maman musique. Je l'appelais ma maman musique. Et puis, une fois que je suis sorti de cette mue, Frédéric Anspach était professeur de chant dans une école de musique de Bruxelles, à Schaerbeek. C'est aussi un quartier de Bruxelles. Et je suis allé pendant 2 ans à son cours. Et puis, au bout de... Parce qu'il me disait, tu es trop jeune pour entrer au conservatoire. On va faire 2 ans de... 1 an ou 2 de chant à cette école. Et puis, je l'ai fait. Et puis, après ça, j'ai passé l'examen d'entrée au conservatoire. Et je suis rentré au conservatoire.
Dans sa classe à lui.
Dans sa classe à lui, oui.
Alors, qui était-il, ce Frédéric Anspach? Comment se passaient les leçons, toute cette période de mue? Du coup, il vous accompagne, mais vous ne chantez pas. Qu'est-ce que vous faites?
Non, il me surveillait. J'allais à peu près, disons, une fois tous les 15 jours. Et je faisais quelques exercices, très peu, parce qu'on ne devait surtout pas se fatiguer vocalement dans ces moments-là. Et alors, il se mettait au piano et il chantait des mélodies de Schubert, de Schumann, de Fauré, pas trop difficiles. Et il faisait des erreurs, exprès. Et je devais lui dire où il avait fait l'erreur. Alors c'était un genre de jeu comme ça. C'était amusant. Puis je me souviens qu'un jour, je suis allé chez lui pour une leçon, et il avait de la visite, et c'était Jacques Janssen. Jacques Janssen qui était, à l'époque, le superbe Pelléas français. Et par après, Jacques Janssen est venu chaque fois qu'il pouvait m'écouter, quand j'étais en Provence, par là, parce qu'il habitait, je crois, en Provence. Il est venu m'écouter et me disait « Ah, je me souviens, je vous avais vu chez Freddy, on l'appelait Freddy, et tu étais en culotte courte et c'était sympa. »
Cet enseignement, c'était de dire que la musique, c'était une intuition, d'essayer de trouver les erreurs chez Schumann.
Oui, la musicalité, disons, la musicalité. Alors, ce qu'il faut dire peut-être, c'est que dans le chant, vous avez deux catégories de voix, ce qu'on appelle les voix naturelles, et ce que les voix, je dirais, travaillées. Ce sont des gens qui disent « j'aimerais chanter » et qui n'ont pas obligatoirement une belle voix. N'importe qui peut chanter. Bon, je vais essayer avec vous, n'importe quoi. Vous apprendre la technique du chant, c'est possible. C'est pas ça qui vous donnera une belle voix. Alors, les gens qui ont une belle voix, je pense à Luciano Pavarotti, je pense à Mirella Freni, ces gens-là, avec qui j'ai eu la chance de chanter, avaient la voix naturelle. Et la voix naturelle, je me suis rendu compte au fil des années, que quand on parle de voix naturelle, on parle aussi de technique naturelle. Et j'ai pensé à ça parce que j'ai à la maison un enregistrement que ma mère avait quand j'avais 11 ou 12 ans. J'avais chanté l'Ave Maria de Schubert à l'église et ça avait été enregistré. Et on entend un enfant qui chante, qui a la technique du souffle. D'ailleurs, je dis toujours, c'est mon meilleur enregistrement. Et... voilà, alors j'ai compris que ce qui est appelé voix naturelle, ce sont des gens qui respirent comme doit respirer un chanteur, qui appuient sur le diaphragme et tout, ce que j'avais. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour eux d'apprendre à chanter. Donc, Frédéric Anspach me surveillait ma façon de chanter, me disait « arrête de faire des glissandos, là tu chantes comme dans une église, c'est pas nécessaire ». Il n'était pas très clérical, je ne pense pas, enfin bon. Et il me corrigeait mes fautes de style plutôt que, voilà. Et il surveillait au fil des années, 15 ans, 16 ans, 17 ans, conservatoire, etc., l'évolution de la voix. Et puis quand je me souviens, quand j'ai eu mon premier prix de chant en juin 59, il m'a félicité, il m'a dit « maintenant il faut commencer à travailler ». Et c'était vrai.
Et Elsa Calonne.
Ah, ça, c'est mon professeur de solfège. Alors, le solfège, c'est encore une chose à part. J'avais commencé, quand j'ai fait le piano, Madame Erat m'avait dit, mais tu devrais peut-être un peu faire du solfège aussi. Alors, je suis allé à l'école de musique de Jette, où j'habitais. Et la première année que j'ai fait, c'était une catastrophe. Je ne sais pas, mais enfin, je n'ai pas eu la moyenne des points. Et quelqu'un a dit... Ah, mais cette personne qui m'avait envoyé chez Madame Erat a dit « mais il faut peut-être changer d'école ». Alors on m'a mis à l'Académie de musique de Bruxelles où il y avait Madame Elsa Calonne. Et pendant 5 ans, j'ai travaillé avec elle, j'étais toujours le premier. Mais c'était très drôle parce que moi, ça a toujours été aussi quand j'étais au lycée. Pour moi, le lycée, c'était, mon père disait « c'est important », mais pour moi, la musique était plus importante. Donc j'allais, et quand il y avait les leçons de solfège, à la Noël ou à Pâques, quand il y avait les examens au lycée ou dans les écoles, il n'y avait personne, il n'y avait que moi, et Madame Calonne qui était là. Et Madame Calonne, elle allait acheter des tartes dans une très grande, qui a commencé à cette époque-là, la pâtisserie Vitamère, et elle allait les tartories. Elle revenait avec une tartorie, et on se tapait les tartories, tout en travaillant. C'était très très chouette. Et Madame Calonne est morte il y a un an, même pas. Elle avait presque 100 ans. Elle était très, très gentille. Moi, je dis toujours que les piliers de ce que j'ai fait après, de ma carrière, disons, c'était mes professeurs, Madame Erat, Madame Calonne et Frédéric Ranspach. C'était la chance que j'ai eue de rencontrer ces gens-là. Et j'y pense souvent.
Qui êtes-vous ? Comment vous appelez-vous ? Ego nominor porcus, je m'appelle cochon. Ah, ah, je suis le cochon, je suis le cochon. Ah, ah, je m'appelle cochon, je suis le cochon.
Alors ce qui m'étonne encore aujourd'hui, c'est que mon père, qui était un artisan, dès qu'il a senti cette fibre chez moi qui m'attirait vers la musique, lui qui, la musique, il voyait une clé de sol comme la tour Eiffel, il ne savait pas ce que c'était. Hein. Il m'a aidé, mais mon père a dit « Ok, tu veux faire de la musique ? Fais de la musique, mais fais-la bien. » Il m'a dit « Parce que si tu ne la fais pas bien, c'est fini. » Alors, je la faisais bien parce que j'aimais. Et quand lui travaillait quand même à 7-8 kilomètres de la maison, et il faisait le trajet à vélo à l'époque, et puis de temps en temps, il venait me chercher à l'Académie de musique le soir. Et j'avais à l'époque aussi, j'avais mon premier chien. C'était un malinois, un berger malinois, qui s'appelait Choc. Et il venait avec mon chien, il venait nous chercher, et on rentrait à pied ensemble avec Madame Calotte, qui habitait sur le trajet. Ce sont des souvenirs assez touchants.
C'est sur cette prière de Gabriel Fauré, accompagné au piano par Jean-Philippe Collard, que se referme le premier épisode des Grands Entretiens avec José Vandamme. Réalisation Marie Groux et Perrine Mingui, prise de son Marcos Darras, mixage Olivier Dupré, attaché de production Flora Sternadel. Demain même heure, deuxième épisode de ce portrait. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.